Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Camille Richard, la directrice du développement durable de Back Market, la licorne du reconditionné. Je sais pas, j'ai intuit ça comme ça, je me suis dit, je pimpe le nom.
C'est pas mal. On aime bien. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très contente d'être là aujourd'hui.
Je suis absolument ravie, surtout que c'est vraiment, le numérique responsable, c'est un des enjeux, surtout au niveau du matériel, puisqu'on sait que c'est... Bon, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, entre 70-80% des émissions de CO2 qui sont liées à la...
Non, c'est un peu moins que ça. C'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de l'empreinte du numérique, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, l'empreinte du numérique totale, c'est 4% des émissions.
Oui, tout à fait, mais je veux dire, après, la construction du device...
Et en fait, ça dépend des pays, ça dépend du mix énergétique, ça dépend, etc. Mais c'est en gros, c'est entre 45 et 70%.
À la construction.
À la construction, oui. La construction des terminaux, qui est extrêmement polluante. Et c'est un petit peu la face cachée du numérique, puisqu'on en parle encore assez peu. On a parlé pendant des années de l'empreinte du streaming. On a commencé à parler de ces empreintes-là.
Mais ça voudrait dire que le reste, ça reste l'usage.
Ça reste l'usage, oui. C'est-à-dire qu'il y a environ... Après, je crois que les data centers, c'est environ 20%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça.
Mais pour avoir un peu un ordre de grandeur.
C'est
donc l'usage, c'est quand même non négligeable.
C'est absolument non négligeable. Et puis, la question de quelle est... si vous êtes alimenté par des centrales à charbon, c'est encore pire aussi. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un chiffre qui est arrêté, mais c'est selon les mix énergétiques des pays, c'est entre 45 et 70% de l'impact du digital, c'est la production de ces terminaux qu'on utilise au quotidien.
Et quel âge a Back Market, justement ?
Alors, Back Market a été fondé en 2014, donc on est encore jeune, mais ça fait un petit moment qu'on est là, quand même. Et à partir d'un double constat un peu simple, finalement, c'est d'un côté, justement, cet impact du digital, qui commençait à poindre un peu ces débats-là. Et de l'autre, une question de bon sens. Il y a une solution qui existe depuis toujours, qui est la réparation. Et en fait, cette solution, elle n'est pas forcément évidente ou accessible à tout le monde. Donc, comment on la rend accessible ? Donc, en fait, oui, c'est une question en fait, de bon sens. C'est comment on met à la portée de tout le monde cette solution qui existe depuis toujours, qui est réparons, réemployons, réutilisons.
Et justement, pour ceux qui vous connaissent pas, mais si vous commencez à être assez connu en France, comment ça fonctionne, Back Market ? Est-ce que je peux devenir, moi, utilisateur
C'est très simple. En fait, Back Market, donc, c'est ce qu'on appelle une entreprise B2C, donc, qui s'adresse aux consommateurs. Donc, c'est une marketplace, c'est un intermédiaire entre des clients qui veulent acheter des appareils reconditionnés et des reconditionneurs. Qui sont en France beaucoup, en Europe, un peu en Asie, un peu aux États-Unis.
D'accord.
Donc il suffit juste de se connecter sur le site.
Mais on va nous rediriger vers le reconditionneur le plus proche de nous, non quand même.
Alors avant c'est pas le cas, mais on est en train de travailler justement pour mettre dans l'algorithme en fait la valeur ajoutée de Back Market, c'est un algorithme qui vous met à disposition le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est-à-dire, si vous cherchez un téléphone, on va dire un iPhone 8, par exemple, il ne va pas vous donner forcément le moins cher, il va vous donner le meilleur rapport qualité-prix. Mais après, vous pouvez évidemment trouver le moins cher très facilement, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, et là, récemment, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un local boost, donc pour pouvoir, en fait, avoir en priorité des offres qui sont sourcées proches de chez nous. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché du reconditionné, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, parfois, vous pouvez avoir, on va dire, vous cherchez un iPhone 8, je dis n'importe quoi, mais un iPhone 8 rose. Et en fait, il ne va pas y avoir cette offre tout près de chez vous. Donc, ça va être au consommateur de décider s'il veut quand même ce modèle-là ou s'il va en prendre un plus près, etc.
Et justement, est-ce que moi, je peux donner mon... Enfin, comment vous récupérez les produits que vous vendez ?
Voilà. Encore une fois, nous, on est des intermédiaires. Donc, ce n'est pas nous qui allons... On n'a pas d'entrepôt de stockage de téléphones. On n'a pas des placards remplis de téléphones qui attendent d'être reconditionnés. Mais on a mis en place un service qui existe aujourd'hui dans plusieurs pays qui s'appelle le buyback. Donc, en fait, où le client peut revendre son téléphone via la plateforme. En fait, c'est très simple.
Il va estimer le téléphone. Quand
voilà,
c'est
c'est-à-dire que vous vous remplissez un questionnaire qui dit ce qu'il a des rayures sur l'appareil, est-ce que la batterie fonctionne bien, etc. Et selon l'intérêt que va susciter votre téléphone chez un reconditionneur, il va vous faire une offre. Donc, ça peut être, il peut vous proposer 20 euros comme il peut vous proposer 200 euros ou 300 euros.
Tiens, c'est drôle, je crois qu'on va avoir dans l'empreinte e-commerce qui fait ça.
Oui, c'est possible. Ouais.
C'est ça,
possible.
Hein, c'est vraiment cet intermédiaire-là, celui qui récupère. Alors, et qui va.
E-commerce, oui, c'est aussi, va aussi être un intermédiaire pour reconditionner les téléphones. Et alors, nous, sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires pour pouvoir proposer des solutions aussi de recyclage. Puisque parfois, vous n'avez pas forcément votre téléphone. En fait, il ne vaut plus grand-chose en tant que reconditionnement, mais il ne faut quand même pas le jeter à la poubelle. Je pense que tout le monde commence à avoir bien ça en tête. Donc, on est en train de travailler avec des partenaires dans plusieurs pays aujourd'hui pour trouver quand même une solution de recyclage si votre appareil ne trouve pas d'offre chez un reconditionneur.
Et ce serait recyclé comment, justement ?
Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, en France, on a les éco-organismes qui s'occupent de ça. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de matières premières très, très précieuses dans nos téléphones. Donc, il y a les fameuses terres rares dont on en a entendu parler, mais il y a aussi de l'or, par exemple, il y a de l'argent. Alors oui, en quantité infime, mais si on multiplie ça par la tonne de déchets électroniques produits chaque année, ça fait des tonnes, en fait, et des kilos, et des kilos, et des kilos. Et on dit souvent, en fait, qu'il y a plus de d'or dans une tonne de déchets électroniques que dans une tonne de minerais sortis d'une mine d'or, en fait. Puisque, en fait, cette concentration, finalement, elle est beaucoup plus forte dans un kilo de déchets électroniques que dans un kilo de minerais.
Mais est-ce que, du coup, un chercheur d'or sur une plage peut tomber sur un smartphone en détectant
Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 0,03 grammes.
Dites-nous si vous avez déjà trouvé des...
Donc, je pense que ça sert à rien de...
Ça pourrait nous aider à collecter des déchets.
Oui, voilà, ça sert à rien de défoncer votre smartphone en espérant vous faire un petit collier. Non, c'est vrai, des temps infimes, il faut quand même ramener ça. Aujourd'hui, on est à un monde globalisé. Enfin, il faut ramener ça à la quantité de déchets électroniques qui sont produits chaque année. Aujourd'hui, c'est le flux de déchets qui augmente le plus rapidement. On était à, je pense, entre 53 et 57 millions l'année dernière. Et ça a continué d'augmenter. Donc aujourd'hui, et c'est des déchets qui ne doivent pas partir en décharge puisqu'ils sont extrêmement polluants. La décomposition relâche des gaz toxiques, pollue les nappes phréatiques. Donc, c'est vraiment des déchets qu'il faut qu'on prenne en charge. Et donc, quand on ne peut plus aller, la meilleure solution étant évidemment de les reconditionner, de les réemployer. Mais quand on ne peut plus le faire, il faut pouvoir trouver des solutions pour que ça soit fait de façon responsable et utile aussi, qu'on puisse récupérer ces matières.
Et j'imagine que le reconditionnement a aussi une empreinte carbone.
Évidemment. Et d'ailleurs, on a participé à une étude de l'ADEME qui a été lancée sur notre initiative l'année dernière. C'était même fin 2020. Et donc, on a eu les premiers résultats sur les smartphones en janvier 2022. On va avoir les autres là dans les prochaines semaines, c'est-à-dire sur les tablettes, les PC, etc. Parce qu'on n'avait pas d'infos, justement, sur cette empreinte du reconditionné. Donc, on savait que c'était bien.
Qu'il y avait un gain, mais on ne pouvait pas le quantifier.
Exactement. Donc, cette enquête, elle a permis de montrer que sur la durée de vie d'un appareil, donc en prenant en compte le fait qu'il était neuf avant, qu'il était reconditionné, puis utilisé, on économise environ soit 80 kilos de CO2 par appareil. Mais en fait, le gain, il n'est pas seulement sur le CO2. Il est aussi sur les matières premières. Puisque
on n'en extrait pas de nouvelles.
Exactement. C'est-à-dire qu'un téléphone neuf pour le fabriquer, c'est environ 280 kilos de matières premières. Donc, si vous empêchez cette extraction, en fait, vous aussi... si on regarde sur la longue vision, on va dire, on protège aussi des écosystèmes puisqu'on évite de l'extraction, etc. Puis il y a l'eau aussi. On oublie beaucoup l'empreinte eau. Mais un téléphone neuf, c'est 80 000 litres d'eau. Donc, acheter un téléphone reconditionné, ça permet d'économiser 68 000 litres d'eau. Donc, en fait, ce n'est pas des impacts qui sont abstraits. En fait, 68 000 litres d'eau, c'est... Si on prend les 2 litres d'eau par jour qu'on doit boire, c'est 94 ans de consommation d'eau pour un être humain. Donc, c'est pas...
On est d'eau, voilà. on est composé d'eau. Donc,
donc tout ça, c'est
comme nos smartphones.
Exactement. En fait, en tout cas, il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées pour nettoyer justement ces matières premières, pour assembler ces composantes, pour fabriquer ces composantes. Donc il faut pas, y a pas que le carbone. Et il ne faut pas minimiser cette empreinte qu'il y a derrière un objet aussi simple et aussi commun de la vie de tous les jours qu'est un smartphone, en fait. Il faut avoir cette conscience-là. Donc, il faut, C'est intéressant de regarder les résultats de cette étude et d'avoir pour la première fois, en fait, l'ampleur, j'ai envie de dire, des dégâts. Et puis aussi, de voir qu'il y a des solutions qui existent, comme le reconditionné ou la seconde main de façon générale sur plein de produits.
Là, on parle beaucoup du côté environnemental, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont là parce que c'est moins cher.
Ah, surtout là parce que c'est moins cher.
Et justement, c'est bien que tu dises surtout parce que est-ce que votre rôle à ce moment-là, c'est pas aussi de les sensibiliser?
Bien sûr.
Sur le côté environnemental, parce que la plupart, en fait, sont plutôt là. C'est ça, pour le côté, c'est moins cher, on a un appareil tout aussi bien, en bon état, etc. Mais on va en profiter pour les embarquer dans notre univers et dans nos valeurs qui sont, finalement, on est là aussi pour essayer de réduire au minimum l'empreinte carbone du matériel numérique. C'est comme ça, c'est des idées, mais justement, ceux qui se disent, moi, je m'en fous que ça vienne de Shanghai par rapport à Paris, ça coûte plus cher, comment est-ce qu'on peut l'aiguiller pour lui dire, est-ce que ça a le même prix, finalement, l'empreinte du vol, du transport du matériel?
Aujourd'hui, c'était très important pour nous que cette question du transport, elle soit prise en compte, en fait, dans cette étude, puisque c'est une question, on nous l'a beaucoup posée, cette question, à partir du moment où on a ouvert notre plateforme à des marchands asiatiques. On a ouvert cette plateforme aux marchands asiatiques et aux marchands américains pour une raison qui est simple, c'est que c'est des marchés qui sont extrêmement bien approvisionnés, entre guillemets, en appareils à reconditionner, puisque c'est des structures de forfait, en fait, où on vous change le téléphone tous les 2 ans. Donc, vous avez toujours des nouveaux appareils, utilisés.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, nous, on a pris en compte ça, mais en fait, si vous voulez, le transport, c'est sur ces 80 kilos évités, ça va être... c'est 80 kilos, pardon. Ça va être 2, 3, 4 kilos maximum. Donc, même si votre téléphone fait 2 fois le tour de la Terre, il aura toujours une meilleure empreinte reconditionnée que neuf. De toute façon, quand il est neuf, il vient d'Asie aussi.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais justement, sensibiliser davantage sur le fait que, là, vous parliez aussi... je te tutoie, toi, mais je le vous pour la marque, mais... De relocaliser un petit peu et de faire au plus proche. Parce que si on peut encore réduire même cette empreinte du transport, c'est pas mal.
Bien sûr. Alors nous, déjà, on a mis en place on est en train de mettre en place ce local boost dont je parlais pour privilégier, en fait, le fait que les consommateurs trouvent
Ça veut dire que c'est les premiers choix qui apparaissent les plus proches. D'accord.
Voilà. Après, comme je disais, en fait, il faut voir, alors déjà, qu'il y a une demande qui est plus forte que l'offre. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Nous, on travaille beaucoup avec les reconditionneurs français. On s'allie beaucoup avec eux aussi pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, comme c'était le cas, par exemple, au moment de la copie privée. Donc, on essaie justement de pousser au maximum le local. Le local, mais comme ça va être le cas en France, mais comme ça va être le cas en Espagne.
Tout à fait. En fait,
avec
je veux dire,
espagnols,
je parle de la France comme exemple, mais pour l'Espagne, ne pas prendre en France, ils ont en Espagne. C'est vraiment plus proche.
Bien sûr. Nous, dans l'idéal, en fait, on voudrait que les appareils voyagent le moins possible.
Même d'optimiser, j'imagine, les livraisons, c'est-à-dire se dire, on va tout livrer au même endroit.
Alors, c'est pas nous qui livrons.
Oui,
nous, on est vraiment un intermédiaire.
C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du tout.
Mais d'ailleurs, ce qui pose d'ailleurs des questions, parce qu'on considère quand même qu'on a une responsabilité sur l'impact des livraisons.
Donc, c'est votre scope 3.
Exactement. Et donc, on travaille dessus en ce moment. Là, on a responsable de projet carbone qui va arriver dans l'équipe et qui va nous permettre justement de travailler sur ce sujet-là. Donc, comment on fait? Donc, toujours avec exactement ce que tu disais, c'est comment on éveille, on informe en tout cas sur ces impacts-là, comment on aide le consommateur à mieux comprendre. Par exemple, entre une livraison express et une livraison normale, une livraison express, elle est souvent en avion. Donc, est-ce qu'on ne peut pas attendre notre appareil 2 jours de plus et en livraison normale, où on a plus de chances qu'elle soit livrée en camion, etc. Donc, mais tout ça, c'est des choses en fait, que les gens ne savent pas. Et il faut qu'on profite qu'ils soient là pour leur donner ces informations.
Moi, c'est pour ça que souvent, je suis un petit peu radicale, mais bon, je serais pour augmenter le prix d'un truc qui vient de plus loin. Mais en fait, tu fais payer ton empreinte, quoi, clairement. Mais après, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas monté de boîte, j'aurais peut-être coulé avec cette idée de pricing. Mais c'est vrai que pour moi, tu devrais payer ton empreinte carbone d'une façon ou d'une autre, quoi.
Nous, on est en train de réfléchir à tout ça. Donc là, on fait grandir l'équipe.
Oui,
donc...
parce qu'il n'y a pas de réglementation
non,
pour le moment. Mais ça pourrait tomber. Les réglementations
Je pense qu'on est encore... On va plutôt partir sur la base du volontariat. Dans un
coucou l'État.
c'est vrai qu'aujourd'hui nous, on réfléchit beaucoup à ça parce qu'en effet, on considère qu'on a une responsabilité puisque c'est notre business model. Mais ce qui est aussi difficile, c'est de se dire, OK, donc est-ce qu'on va augmenter les prix quitte en fait à détourner des consommateurs
vers d'autres choses. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord.
C'est ce que tu disais.
C'est compliqué.
Tout à l'heure.
Non, mais en fait, c'est tellement compliqué. Et puis même se dire s'il a plus le choix et qu'il doit vraiment l'avoir pour demain son truc, est-ce que tu fais c'est ça et que...
Après, nous, on réfléchit là à des solutions de des modèles en tout cas de compensation carbone sur les livraisons.
Oui, déjà compenser peut-être.
Après, voilà. Moi, la compensation, c'est pas. Non, c'est pas ça que je préfère.
Tu sais, c'est pour ça que je t'en ai même pas parlé. Parce que dire, au pire, on peut pas compenser en plantant des arbres, mais c'est
ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est on veut être dans la réduction. On est pour l'instant, on a été certifié SBTI l'année dernière, donc on est dans une trajectoire 1,5 degré. On veut le rester malgré l'hypercroissance, parce qu'il y a aussi ce sujet-là.
Ah, c'est hyper compliqué, mais c'est top de pouvoir se dire qu'on...
On est ambitieux et et on veut le rester. Mais,
soyez inspirant.
Mais du coup, cette question des livraisons, oui, on y réfléchit beaucoup. On est en train d'essayer de voir, est-ce que ça passe par l'information? Est-ce que ça passe par des nouvelles propositions? Est-ce que ça passe par des discussions avec les transporteurs? Comme on est nous, un intermédiaire, on n'a pas le levier suffisant parfois, mais on le cherche et on discute. Mais en effet, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour le e-commerce de façon générale, oui.
Et c'est quoi, du coup, tes perspectives ou tes prochains challenges?
Alors, là, on a quand même eu un début d'année un peu sur les chapeaux de roue, puisque donc, on est devenu société à mission.
Ouais, trop bien.
Avec une mission qui est de donner le pouvoir à tous les humains de faire durer les machines par la circularité et la réparation.
Contre l'obsolescence programmée.
Exactement. Et donc ça, on en est très, très fiers. Ça a été un gros travail. On a fait des grandes consultations de nos parties prenantes. On a beaucoup travaillé. On a envoyé notre candidature à Bicorp aussi. Donc, en début d'année, mais bon, il y a beaucoup d'attentes. Donc,
Coucou Bicorp, si vous écoutez.
J'en peux avoir un petit coup de fil. Et puis, on a terminé notre première déclaration de performance extra-financière. Alors, c'est pas très sexy, mais en gros, c'est on va dire un pré-rapport RSE quelque part. C'est un document légal qui n'est pas encore obligatoire pour nous, mais qui le sera l'année prochaine. On raconte un petit peu ce qu'on fait justement en termes d'impact, que ce soit à la fois social, sociétal, économique, environnemental. Donc ça nous permet nous structurer, de voir un petit peu où sont les trous dans la raquette, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on l'est moins, comment on s'améliore. Donc là, moi, on va dire que mes objectifs cette année, déjà, ça va être de répondre à Bicorp sur l'audit, qui va être une sacrée paire de manches. Et puis ça va être là, je suis en train de faire atterrir ma feuille de route développement durable. Quand je dis ma, c'est celle de l'entreprise parce qu'on est beaucoup à travailler dessus. Et puis en espérant début d'année prochaine de faire notre premier rapport intégré. Donc à la fois, nous on considère que l'empreinte environnementale, la performance environnementale doit arriver au même endroit que la performance économique, financière et la performance sociale. Donc on veut en fait produire un rapport d'activité en fait qui porte ces valeurs là. Donc ça va être, c'est un peu les grands challenges. Et puis, comme je disais, on a un responsable de projet carbone qui va arriver dans l'équipe. Et donc, on veut mettre à plat toutes nos cibles carbone. On veut être bien sûr d'être dans la bonne trajectoire, etc., etc. Embarquer les équipes pour que chacun ait des objectifs sur ces sujets. Donc, il y a encore plein de choses à faire et c'est très excitant. Et puis, c'est une entreprise qui est ambitieuse sur ces sujets. Et en même temps, assez humble, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il y a peut-être des projets qu'on va rater et on essaiera autre chose. Ce n'est pas très grave.
C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu penses des 3 ans qui nous restent? Tes entités de synthèse.
Moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis pessimiste, mais pas fataliste.
C'est ça.
Donc, on peut pas baisser les bras, on ne peut pas s'arrêter là, on ne peut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Donc... On va sûrement au-devant de choses compliquées, mais l'idée, c'est de faire en sorte de freiner au maximum, de trouver les façons d'atténuer au maximum.
D'accompagner comme vous le faites.
Et d'accompagner, puis surtout de... Je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique et le changement climatique et l'atteinte à la biodiversité et tous ces sujets, il faut arrêter de culpabiliser le consommateur en permanence. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Back Market, et on investit beaucoup dans le marketing, ce qui paraît être un petit peu... bizarre, entre guillemets, pour une entreprise qui est aussi positionnée sur la question environnementale. Tout simplement, en fait, parce qu'on essaie de créer une fierté autour d'acheter, en fait, de la deuxième main, de réutiliser, de créer une communauté, en fait, qui est fière de porter ces valeurs de l'économie circulaire. Et c'est pour ça qu'on est très dans une communication qui est très décalée, qui est avec l'idée de rendre un petit peu ringard le neuf. Et c'est ça, en fait, notre idée à nous, c'est de ne pas culpabiliser, mais de créer une fierté autour de ça. Et de mobiliser, en fait, en espérant que les gens, demain, soient fiers de dire « moi, j'ai mon téléphone, il est reconditionné ». Et aujourd'hui, on sait qu'on a environ 25% de nos clients qui viennent pour des questions d'impact. et le reste plutôt pour des questions de prix. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Si on peut les embarquer.
Exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, eh ben, on va leur donner des informations. Et on va faire en sorte en fait, qu'ils ressortent de là en sachant qu'ils n'étaient peut-être pas venus pour ça à la base, mais ils ont fait quelque chose de bien et ils ont posé un peu leur pierre. Et puis peut-être que du coup, ils vont réfléchir à leur prochain achat sur du seconde main, sur du réemploi. Et ça, c'est pas... C'est des gouttes d'eau dans l'océan, mais on apporte un peu notre pierre à l'édifice, quoi.
Merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on a parlé le tour. On a parlé de pas mal de choses.
Merci. On va reprendre en off notre conversation sur les fractures de fatigue.
Moins dans le thème, mais tout aussi important.
Tout aussi important.
Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était super sympa. Et on est des fans de l'empreinte. Donc, on était très honorés d'être invités.
Je suis ravie, parce que moi aussi, je suis une fan de Back Market. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.